intercèdent, des gens se préparent dans la louange, des gens travaillent pour que ce culte soit une réussite. Et je pense que votre retard est un fardeau pour l'Église et aussi pour le Seigneur. La page est tournée. La semaine prochaine, vous serez tous à l'heure. Et il faudra, parce que la source sera là aussi, et ils vont prendre de la place. Alors si vous ne voulez pas vous retrouver assis sur la moquette, parce qu'il n'y aura plus assez de chaises, avec la grâce de Dieu, il faudra être à l'heure. Amen ?
Amen.
Alors beaucoup de choses ont été partagées ce matin, et je me devais aussi de rebondir sur les partages d'Antoine, ces deux dernières semaines, qui nous a invités de passer des ténèbres à la lumière. C'est tout un programme, passer des ténèbres à la lumière. C'est tout un programme, et en cette période de Noël, Sandy nous a rappelé que c'était une bonne nouvelle qui nous est annoncée, un sauveur vous est né, paix sur la terre. C'est un terme qui a été repris, shalom, la shalom de Dieu. Et en ce temps de naissance de Jésus, une brèche avait été faite dans le ciel, on pouvait même entendre les anges qui louaient Dieu. C'était un moment important. Parce qu'on nous parlait de la naissance d'un sauveur. Mais sauveur de quoi ? Est-ce que tout le monde était en danger ? Visiblement, sans le savoir, tout le monde était en danger. Et il y a peu de temps, on a fêté, enfin on n'a pas fêté, c'était la journée contre l'esclavage. Et nous, chrétiens, ce terme esclavage, il nous est un petit peu quand même connu. Alors qu'est-ce qu'un esclave ? La définition de l'esclave, c'est ça. L'esclave est la condition d'un individu privé de sa liberté qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. Quand je suis esclave, j'appartiens à quelqu'un et il fait de moi ce qu'il veut. S'il veut tirer un profit financier, il peut. S'il veut tirer de moi un profit matériel, il peut. Tout ce que j'ai est à lui. Voilà ce qu'est un esclave. Et on est passé des ténèbres à la lumière et on est sorti nous aussi de cet esclavage. Vous dites amen à ça. Amen. Pourtant, en 2012, on pourrait croire que l'esclavage est aboli, il n'y en a plus. En tout cas, dans nos pays civilisés, il n'y en a plus. Il y a des pays où encore on parle d'esclaves, oui. Et c'est difficile pour revenir en arrière. Mais en France, l'esclavage, ça n'existe pas. Pourtant, le 20 septembre dernier, une jeune fille retenue en esclave par une famille des Émirats Arabes Unis a été libérée dans un hôtel parisien. Et alors que je lisais ces informations, j'ai appris qu'il y a 3 semaines environ, à Waterloo, dans ma ville, à Waterloo, un grand réseau d'esclavage, de traite des femmes a été démantelé. À Waterloo, vous vous rendez compte ? Des femmes étaient importées de Roumanie régulièrement pour servir d'esclaves sexuels. Et puis, quand elles étaient plus très fraîches, on les renvoyait au pays, on en prenait des autres. En 2012. L'esclavage dans le monde, d'après des études de 2005, c'est 2,4 millions de personnes soumises au travail forcé. En 2005. En 2009, on pouvait affirmer que 80% des esclaves étaient des femmes et des enfants. Des femmes et des filles. Des enfants représentent 15 à 20% des victimes et les femmes et les filles 80%. La traite d'enfants a lieu dans toutes les régions du monde. Dans certains pays, c'est la forme de traite la plus courante. Et parmi ces esclaves, l'exploitation sexuelle représente 80% des cas connus. Selon les spécialistes, la traite aux fins de travail forcée est un phénomène largement sous-estimé. Mes amis, on n'en a pas fini avec l'esclavage. On n'en a pas fini parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu. Trop d'intérêts en jeu. Et naïvement, on pourrait s'imaginer, nous qui sommes libres, que l'esclavage n'est plus là. On ne le voit pas. Mais Jésus nous révèle une autre forme d'esclavage. Un esclavage beaucoup plus subtil. Un esclavage beaucoup plus perfide. On va regarder ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 34 à 36. Parce que passer des ténèbres à la lumière, c'est important. Mais je pense que sortir de l'esclavage est encore plus important. On peut être dans la lumière et esclave. Et Jésus nous dit vraiment, je vous l'assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Voilà ce que nous dit Jésus. Partant du principe que nous sommes tous pécheurs, vous êtes d'accord avec ça ? Nous sommes tous pécheurs, nous pouvons considérer que nous avons tous été esclaves. Amen ? Oui. Nous avons tous été esclaves et Jésus nous affirme que le seul moyen d'être libre, c'est de passer par lui-même, Jésus. C'est la seule possibilité pour l'homme d'être libre. Mais alors, libre de quoi ? Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité c'est... Oh, vous êtes timide là sur ce coup-là. La vérité c'est qui ? C'est Jésus, mes amis. Affirmez que la vérité c'est Jésus. On est dans un monde où on ne veut pas entendre parler du nom de Jésus. Mais la vérité c'est
Jésus.
Dites-le fort et haut. C'est lui la vérité, il n'y en a pas d'autre. C'est important de le reconnaître. Parce que c'est cette vérité-là qui nous rend libres. Amen. Être esclave de notre péché, c'est le naturel de l'homme. Nous sommes tous esclaves de nos péchés. Et quand bien même on va résister, ils vont toujours frapper à notre porte. Hé, je suis là, je suis le péché. Tu ne m'as pas oublié, j'espère. Non, on t'a pas oublié, t'inquiète pas, on t'a pas oublié. Fous-moi la paix. Il n'y a qu'au nom de Jésus qu'on peut résister au péché. Il n'y a que ce nom-là qui nous libère vraiment. Le père du péché, c'est le diable. Et quand nous commettons un péché, nous nous soumettons au diable. Il n'y a pas d'autre solution. Revenons sur Jean 8, 32, la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que veut dire cette phrase ? La vérité vous affranchira. Est-ce que je suis libre de tout ? Est-ce que je suis libre aussi de toutes choses qui sont interdites dans la Bible ? Alors, j'aime pas ce mot interdit dans la Bible. Pour moi, la Bible, il n'y a pas d'interdit dans la Bible. Dieu nous donne des conseils de vie, des conseils de vie commune. Ne pas voler. Si je vole quelque chose à quelqu'un, ah oui, moi je suis content, mais lui non. Si je mens, je cache la vérité. Dieu ne veut pas qu'on cache la vérité. Alors, est-ce que je peux voler, mentir, commettre l'adultère ? Toutes ces choses que la loi biblique nous interdit ? Est-ce que je peux le faire parce que je suis libre en Jésus ? Hé les gars, je suis libre en Jésus, je peux voler, mentir. Tromper ma femme. Après tout, je suis libre. Non ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire être affranchi ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire être libre ? Je vais peut-être vous choquer ce matin, mais l'homme n'a pas été conçu pour être libre. L'homme n'a pas été conçu pour être libre. Entendez bien que c'est peut-être quelque chose de difficile à comprendre, mais l'homme a été conçu pour avoir un maître. Nous n'avons pas été conçus pour vivre sans maître. Simplement à nous de choisir quel maître. Quand Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a faite, c'est lui donner des ordres. Tu vas régner, oui, tu vas régner sur les animaux. Donne-leur un nom. Fais ceci, fais cela. Et l'homme a obéi. Et tant que l'homme obéissait à ce que Dieu lui avait demandé, ça se passait bien. Et d'un seul coup, les ordres se sont presque arrêtés. Il n'y en avait qu'un seul. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà un seul ordre que Dieu nous avait donné. Quand l'homme avait fait sa part, c'était simple. Les choses étaient établies, Dieu avait terminé, et il avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Puis tout à coup, un serpent est arrivé. Mais si, tu peux en manger. Vas-y, vas-y. Et lui aussi donnait un ordre. Vas-y, mange-en, prends-en. Prends-en, mange. Prends ce fruit, goûte. Tu vas être l'égal de Dieu. Et dès l'instant où l'homme a obéi à ce Satan, à ce diable, il a changé de maître. Parce qu'il a obéi à un autre maître, il a changé de maître. Et l'humanité entière s'est engouffrée dans cette voie-là. Parce qu'il n'y avait pas de raison pour que, puisque Adam et Ève, qui ont été conçus directement par Dieu, eux ont péché. Excusez-moi mes amis, mais je pense que je n'aurais pas fait mieux. J'en ai la conviction, la certitude, et bien malin celui qui va me dire « j'aurais fait mieux ». Quelqu'un aurait fait mieux ici ? J'aurais pas fait mieux qu'Adam et Ève, j'en suis sûr et certain. Alors on ne va pas blâmer Adam et Ève ce matin, mais à partir du moment où ils ont accepté l'ordre de Satan, ils ont changé de maître. L'homme a été conçu pour avoir un seul maître. Et quand ils ont accepté l'ordre de Satan, ils ont changé de maître. Simplement, contrairement à Dieu, le maître qu'ils ont choisi ne leur laissait aucune liberté. Aucune liberté. La seule motivation du diable, c'est que surtout vous ne fassiez pas la volonté de Dieu. La seule chose qui va le satisfaire, c'est que vous ignoriez la volonté de Dieu pour votre vie. Le diable, ce qu'il veut, c'est qu'en ignorant cette volonté de Dieu, vous soyez happé avec lui dans l'enfer et que vous soyez perdu à jamais. Alors quand Jésus est arrivé sur cette terre, quand il s'est rendu compte de l'état d'esclavage dans lequel nous vivions, quand il a pris cette décision de venir nous sauver, il n'est pas venu nous rendre libres pour faire tout et n'importe quoi, il est venu nous rendre libres pour choisir à nouveau notre maître. Amen. Nous devions choisir notre maître, changer d'autorité. Jésus lui a retiré l'autorité sur nous et nous a rendu cette possibilité de l'accepter, lui, comme étant le roi que nous avons chanté ce matin. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et j'ai bien aimé le partage de Paul qui nous rappelle que ces hommes importants ont apporté de l'or à ce petit Jésus. À l'époque, on pouvait dire le petit Jésus, il n'était pas bien grand, je pense. Regardez Anna, il ne devait pas être beaucoup plus grand que ça. Voilà, ils lui ont apporté de l'or, parce que c'était un roi. Lui qui était dans une petite bicoque, pas de valeur, ils lui ont apporté de l'or, parce que c'était un roi. Ils lui ont apporté de l'encens, parce que c'était un dieu. Amen. Ils ont reconnu en lui quelqu'un de grand, quelqu'un de merveilleux. C'était qu'un bébé, mais il savait. Il savait. Et la mire parce qu'il méritait tous les honneurs d'être embaumé comme un roi, justement. Alors que quand il est mort, il s'était dépouillé de tout. Si on avait dû lui donner que ce qu'il avait, il serait parti sans rien, mais des hommes se sont chargés de sa dépouille jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité. Gloire à Dieu pour ça. Le diable ne nous laisse aucune liberté, mais Christ nous a franchis. Nous avons dorénavant l'autorisation de choisir notre maître. Nous sommes libres, mais reconnaissons que cette liberté est fragile. Amen. C'est facile pour vous d'être toujours libre. C'est facile pour vous de résister au diable, de résister aux penchants. Si vous avez des facilités, je veux bien que vous m'écriviez. Je lirai votre livre. Romains 6, verset 16, nous dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à la vie juste. Mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Si je parle ici à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois vos membres en esclaves à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée, de même offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. Lorsque vous étiez encore esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Or, quel fruit portiez-vous alors ? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Amen. Ce passage nous dit bien que, oui, Jésus nous a affranchis. Mais si nous avons quitté le joug de l'esclavage du diable, en acceptant la liberté que nous offre Jésus, nous acceptons le joug de l'esclavage de Dieu. Amen. Je serai toujours un esclave, mais à moi de choisir mon maître. Amen. Passer des lumières, des ténèbres à la lumière, c'est choisir son maître. Parce que de toute manière, nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. Mais à nous de savoir qui nous voulons servir. Et je peux vous garantir que servir le diable, c'est facile. Je ne veux pas vous décourager ce matin, mais servir le diable, c'est simple. Faites tout ce que vous voulez, ayez la vie la plus dissolue que vous voulez, foutez-vous en l'air si vous voulez, tout va bien. Là, j'ai servi le diable. Je vole, je mens, je bois, je fume, je trompe mon épouse, je fais tout ce que je veux, je vole mon patron, je lui mens à outrance. J'ai servi le diable. En général, c'est pas lui qui va m'embêter. Bon, la justice peut-être. Les impôts certainement. Mon portefeuille, n'en parlons même pas. Mais le diable, il va me foutre la paix. Là, j'ai un bon maître, hein. Là, on a un maître qui nous laisse tranquille. Jamais il va vous dire, c'est mal ce que tu as fait. Ah oui, c'est pas bien. Non, lui, à l'occasion, on va venir vous culpabiliser quand même un peu. Tu te rends compte. Continue, t'es trop loin, continue. Mais quand on a choisi de servir Dieu, et qu'alors notre raisonnement se met en place, on se rend compte qu'il y a un prix à payer. Ça a un coût, c'est dur. Et tous les jours, on doit lutter contre notre propre chair. Dire non à nos pensées. Dire non à nos jugements. Dire non à nos propres volontés. Combien de fois on peut constater des disputes. J'ai le privilège de travailler dans un environnement où il y a beaucoup de jeunes. Et quand je les écoute, je me dis, quelle grâce j'ai de connaître Jésus. Quelle grâce j'ai de connaître Jésus. Ils vivent dans la violence, ils vivent dans l'insouciance, ils vivent dans l'ignorance. C'est terrible. Ils ne se rendent même pas compte de tout ce qu'ils font. Et j'ai beau leur dire, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Gloire à Dieu, j'arrive encore à leur parler avec amour parce que Dieu les aime. Mais rien que l'idée que Dieu puisse les aimer, ça les fait rire. Est-ce que vous vous rendez compte que l'amour de Dieu fait rire aujourd'hui ? L'amour de Dieu fait rire. Si toute notre vie, à chaque instant, nous devons choisir de qui nous sommes l'esclave, soit de Dieu, soit du diable, eh bien, soyons esclaves de Dieu. Soyons esclaves de Dieu. Mais si nous sommes esclaves de Dieu, alors faisons la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est difficile. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas faire celle qui me satisfait. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas faire celle qui me fait plaisir. Quoique la volonté de Dieu devrait nous faire plaisir, parce qu'elle est parfaite. Amen. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas faire celle qui m'arrange. Mais c'est celle que Dieu attend de moi. Quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, que je puisse chercher la volonté de Dieu d'abord. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et je dirais, si Si je vous parle d'une prière que nous connaissons tous, vous allez me citer le Notre Père. Jeudi dernier, nous enterrions le grand-père de Sylvie et à l'église, le curé disait « S'il y a bien une chose qui est universelle dans notre pays, dans nos pays même francophones, c'est le Notre Père. Qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit croyant ou pas, la plupart des gens francophones connaissent le Notre Père. » Et dans cette prière qui est merveilleuse, dans Matthieu 6, verset 10, nous disons « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Voilà ce que nous pouvons dire, nous, chrétiens. Voilà ce que Jésus nous a enseigné à demander à Dieu. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors que le seul ordre du diable, c'est « Ne fais pas ce que Dieu te demande. » Et pour vous encourager à lui obéir, il va vous rappeler hein, « Tu ne sers à rien. Tu n'es pas à la hauteur. Quoi que tu fasses, les autres s'en moquent. Ce n'est pas important ce que toi tu vas faire. » Ou alors même un peu plus loin, mais pour qui tu te prends pour croire que Dieu te demande quelque chose ? Après tout, qui tu es pour que Dieu te demande quelque chose ? Dieu n'a pas besoin de toi. Et puis, ça ne va pas marcher. Ça ne sert à rien. Ce sera comme d'habitude. Laisse. L'autre est meilleur que toi pour faire ce que tu vas faire. Vous n'avez jamais entendu ces petites phrases-là ? Alors que Dieu vous demandait quelque chose ? Bien souvent, quand Dieu nous demande quelque chose, on raisonne. On va se dire « Non, je me suis trompé. » Ou « Je ne suis pas à la hauteur. » Ou « Dieu même peut s'être trompé, après tout. » Et pourtant, on va continuer de dire « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Mes amis, faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui va nous coûter. Assurément, cette notion de liberté est difficile à cerner. Parce que nous devons renoncer définitivement à toute liberté quand nous appartenons à Christ. J'ai presque envie de dire, quand on entend ce message, c'est pire que d'être esclave du diable. Parce que esclave du diable, tu fais ce que tu veux. Esclave de Dieu, tu fais ce qu'il veut. Amen. Amen. Et ça va vous coûter. Alors je vais arrêter d'enfoncer le clou, parce que c'est quand même Noël. Mais retenons que la liberté en Christ va vous coûter plus cher que l'enfermement dans les griffes du diable. Passer des ténèbres à la lumière va vous coûter plus cher que de rester dans les ténèbres. J'aimerais qu'on puisse lever et prier ensemble. Qu'on puisse demander à Dieu la force, le courage et l'abnégation de toujours lui obéir. De jamais baisser les bras. Que quel que soit le motif, quelle que soit la raison, on puisse garder les yeux fixés sur lui et faire sa volonté. Qu'on puisse mettre de côté nos raisonnements humains, nos habitudes, nos penchants. Qu'on puisse mettre de côté tout ce qui va nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Oh Père éternel, nous venons dans ta présence ce matin avec reconnaissance. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus est venu pour nous sauver. Il y a 2000 ans, un bébé est né. Et en cette période de Noël, nous nous souvenons. Nous nous souvenons combien, a priori, c'était sans importance, mais après mûre réflexion, combien c'était merveilleux. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour Jésus, qui est venu nous affranchir du joug du diable, qui est venu nous rendre libres de choisir notre maître. Et ce matin, Père éternel, dans ta présence, je suis venu pour te redire encore que tu es mon maître, que je suis ton esclave. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Et pardonne-moi pour toutes les fois où je ne fais pas ta volonté. Père éternel, apprends-nous encore à rester debout dans les difficultés, dans les épreuves, à regarder à toi. Dans les moments où nous voulons faire notre propre volonté, à regarder à ce que toi tu nous demandes. Dans ces moments où nous voulons fuir ce que tu nous demandes, que nous puissions plier le genou et obéir. Oh Dieu de gloire, merci parce que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Merci parce que tu nous as éclairés. Merci parce que maintenant nous savons. Mais apprends-nous à aller au-delà juste de la connaissance. Apprends-nous à aller au-delà même de la bonne valeur morale. Nous voulons, Seigneur, être pratiquants. Nous voulons être obéissants. Nous voulons choisir notre maître et tuer notre maître, Père éternel. Ce matin encore, nous voulons te dire, ordonne afin que nous obéissions. Je te demande, Père, au nom de Jésus, de bouleverser encore nos vies, que nous puissions cesser de raisonner et obéir à ta volonté. Parce que, Seigneur, ta volonté est parfaite. Ta volonté, même si elle nous dérange, même si elle nous bouscule, même si elle nous fait peur, ta volonté est parfaite. Seigneur, apprends-nous à plier le genou devant toi. Au nom de Jésus, révèle-toi encore, Seigneur, qu'en ces moments de Noël, nous puissions nous souvenir que le petit Jésus est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui nous devons toute obéissance. Oh Père éternel, glorifie ton nom encore dans nos vies, que lorsque nous obéissions, nous puissions voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.